Ça, c'est le dessert.
Ah non.
Hein?
Non, ça, c'est la viande.
Ah, ah, ça, c'est étonnant. Oui, aïe, aïe.
Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé.
Arceau, mâché noir.
Non, c'est pour l'entrape. C'est pour l'entrape et j'ai toujours faim, alors j'ai l'estomac. L'estomac qui revient comme ça, il est... Alors il faut que je mange et puis les petites provisions.
Grand, ce filou.
Non, petit filou.
Je veux me goinfrer, me gaver le plus possible, vous avez.
3, 4.
C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.
Allez-y.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on se met à table avec l'un des acteurs chouchous des Français, capable de faire tordre de rire nos grands-parents, nos parents, nos enfants et nous-mêmes accessoirement. On en a fait la roborative expérience pendant le confinement où l'on a redévoré toute sa filmographie à la télévision. Je veux évidemment parler de Louis de Funès. À l'heure où la Cinémathèque de Paris lui consacre une grande exposition jusqu'au 31 mai prochain, on va voir comment du grand écran à sa vie privée, l'acteur comique aux 140 films a entretenu des rapports intimes, mais on va voir aussi un peu complexe avec la bonne chère. Pour en parler, deux invités en ce dimanche. Claire Dixot, bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des spécialistes des liaisons incestueuses entre cinéma et gastronomie. On vous doit notamment des ouvrages remarqués comme « Bon appétit, Monsieur Bond ». Vous étiez venu nous en parler à l'époque où nous faisions, vous vous en rappelez les anciens, une émission depuis le festival du film de Deauville.
De Deauville. Bien sûr.
Voilà, hein, et bien on avait parlé de Bond à l'écran et à table avec la mafia également, que vous avez signé un peu après je crois, et en 2011, à table avec Louis de Funès aux éditions Agnès Viennot, vous avez épluché, décortiqué tous les films de Funès à la recherche des scènes les plus croustillantes. J'ai votre livre à mes côtés. Avec nous également, celui qui nous a accompagnés pendant tout le confinement et qu'on est ravis de retrouver aujourd'hui, c'est Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Ça va Laurent, justement, en parlant de Deauville, vous en revenez?
J'en reviens, oui, oui, absolument. Et je même...
Et vous y retournez?
Oui, tout à fait.
Petite parenthèse, Louis de Funès dans le studio 521 de la Maison de la Radio. C'est Monsieur Cinéma de France Inter, Laurent Delmas évidemment, et il vient souvent mettre son grain de sel dans l'émission. Il va nous aider aujourd'hui à croquer la face gourmande de Louis de Funès. À mes côtés en direct, j'ai le plaisir d'accueillir un immense funesse au fil. C'est notre chroniqueur vin Dominique Hutin. Salut.
Bonjour. Oui, voilà, c'est bien. J'accepte.
Oui, on peut. Amour de Louis de Funès revendiqué.
Oui, 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 je l'ai revisité entièrement. J'ai revu tous les films pour reconstituer sa
carrière. C'est même un maniaque de Louis de Funès.
Le fou furieux.
Une émission qui, exceptionnellement, va durer 5 heures.
Et celle qu'on entend, plus discrète aujourd'hui, peut-être, c'est Elvira Masson. Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais pas du tout, parce qu'on s'écartera un peu du cinéma avec vous et ça nous fera du bien. Pour parler agriculture paysanne, même si on va voir aussi que le sujet est assez lié à Louis de Funès.
Oui, on va faire un petit tour dans une ferme modèle en Normandie, puis on va passer en revue quelques pages d'un livre dédié au monde paysan.
Très bien, si vous voulez interagir, amis auditeurs, dans l'émission pour une remarque, une question, une recette, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton intervenir depuis l'appli mobile de France Inter. Nos infos pratiques, nos recettes et toutes les scènes cultes de Louis de Funès à table, si si, en ligne, sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Allez-y.
Juste avant de plonger dans la petite cuisine de Louis de Funès, je vous propose quelques coups de cœur en cette rentrée. Elvira, Dominique et Laurent, je vous lance un défi. Vous avez chacun une minute pour défendre une adresse, un produit ou une initiative. Honneur à Elvira Masson.
Allez, c'est parti, 60, 59. Un mot de Mimosa, M2IMOSA, qui est une plateforme de financement participatif au service exclusivement de l'agriculture et de l'alimentation vertueuse et durable. En ce moment, Mimosa lance un appel à projet à destination de producteurs, d'artisans et d'entrepreneurs qui souhaitent lancer ou développer une initiative. Alors que vous soyez en train de vous lancer dans les biscuits au blé anciens locaux, une épicerie en vrac, un atelier de fermentation, une microbrasserie ou que sais-je encore, dans une démarche responsable et durable, à condition que vous puissiez avoir des produits à faire goûter dans les prochains mois, d'ici à la fin de l'année, inscrivez-vous sur le site farmshop.mimosa, toujours avec deux i.com, et lancez votre campagne de financement participatif d'ici au 15 octobre.
Très bien.
Fin octobre, 10 projets lauréats seront sélectionnés par un jury et remporteront des dotations exclusives pour les aider, notamment une mise en avant des produits dans l'une des boutiques que Mimosa va mettre en place d'ici à la fin de l'année pour les fêtes de fin d'année. Quelle à Lyon Cannes et à Paris. C'est chouette, non?
Et c'est à l'échelle de tout le territoire français.
Absolument.
Génial.
Inspirant, non?
Vive Mimosa.
Et ouais.
Toutes les infos sur notre site franceinter.fr. À la page où on va déguster.
Ouais.
Là, je crois que vous êtes vraiment, dans les clous, hein. Vous êtes vraiment dans les clous. Petit sprint de Laurent Delmas qui a fait une belle découverte cet été.
Oui, dans le Gard, ça va vous étonner. Entre Nîmes et Alès, très exactement.
On n'était pas très loin, Laurent.
Mais oui, c'est vrai. Dans le petit village de Saint-Bénézé. Là se trouve le mas de la Courme qui est tenu par Mathieu Rio. Alors Mathieu Rio, à l'origine, c'était un producteur de Pélardon, le fromage de chèvre local.
AOP.
Il l'est toujours, AOP, absolument. Mais depuis 2013, il a initié avec quelques autres l'élevage d'un baron des Cévennes. Le baron des Cévennes, c'est une nouvelle race de porc élevé en plein air, s'il vous plaît, élevé à la châtaigne, comme il se doit quand on est près des Cévennes.
Et il tape dessus.
Il
tape dessus.
Il tape dessus. Pourquoi faire? Et élevé bien sûr à la garrigue. C'est-à-dire le thym, le serpolet, etc. Et élevé au petit lait des Pélardons, bien entendu, que les bêtes têtent tout le temps le petit lait. Donc voilà, ça donne une bête incroyablement odorante, avec des salaisons formidables, des pâtés, des jambons, de la saucisse aux Pélardons aussi. Voilà, tout ce que fait Mathieu Rio au mas de la Courme, c'est absolument sublime. C'est vraiment de la belle agriculture, du bel élevage, comme on les aime, et le résultat dans l'assiette est absolument succulent. Vous avez toutes les infos sur le
baron des Cévennes. Évidemment, Laurent Delmas nous a rapporté un jambon, alors.
Mais non, hélas, il n'y en avait plus.
Il a tout mangé dans le train.
Il s'inscrit sur Mimosa, non, votre ami?
On pourrait lui suggérer, c'est une bonne idée, absolument.
Jamais goûté le baron des Cévennes, vous avez goûté ou pas?
J'aurais bien voulu, tiens.
Du baron des Cévennes.
La prochaine fois, je vous en apporte, promis.
Voilà.
En tout cas, ça nous intéresse et ça nous donne l'eau à la bouche. Dominique Hutin, c'est à vous.
Bon, moi, je vais essayer de relever un peu le niveau. Il y a un frisson exotique.
C'est un problème, quand même.
Alors, je vais vous parler d'un vin. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est un vin que j'ai bu en France, qui est un vin autrichien, qui est produit par deux Hongrois, qui a été offert par un ami hollandais, qui lui-même l'a chiné à Chinon, chez un caviste. Je n'invente rien. C'est le domaine Olas. Il est là. La cuvée s'appelle Pinka. C'est frais, c'est tendu. C'est jovial, c'est profond en même temps. Bref, c'est vraiment d'une grande modernité. Et
c'est vide aussi.
Ah oui, alors ça, je ne me l'explique pas parce que hier soir encore, elle était
dans le train
pleine. Oui, alors je vous expliquerai le. Enfin bon, voilà. Je sais tenir cette chronique.
Il s'agissait de remonter le niveau. Là, il est à sec. Hein.
Nos intervenants sont généreux aujourd'hui.
On est à sec. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais, je vais continuer quand même.
Non, vous étiez sur Olas, cuvée Pinka, une bouteille donc vide, que vous avez rapportée.
Il y a quelqu'un qui suit, c'est bien, c'est parfait. Donc, ça nous vient du Burgenland, c'est en Autriche, c'est au sud de Vienne, mais ça, vous le saviez déjà.
Comment s'appelle cette région?
Burgenland.
Ok.
Oui, vous voulez me faire chuter à chaque fois, je sais, je suis rompu à ça. Alors, vous voyez, c'est quand même un produit assez exotique, mais il n'y a qu'un caviste, uniquement un caviste qui puisse vous débusquer ce genre de choses-là. C'est la cabane à vin, à Chinon.
Mm-hmm.
C'est 22 euros. C'est un peu plus cher que ce que je vous propose d'ordinaire. Mais la petite coquetterie, c'est que ces 22 euros-là, c'est moins cher que si j'avais commandé le vin directement chez le producteur avec les frais de port, les taxes, etc. Donc du coup, ça vaut le coup d'aller chez son caviste. En l'occurrence, vous y allez avec le Glue Guide numéro 3 sous le bras. C'est 150 vins naturels à moins de 15 euros. Voilà. Le prix du bouquin, 15 euros.
Bah, très bien. Non, c'est vraiment un guide assez épatant pour tous nos amis, notamment amis du vin naturel. Dans un instant, réplique et scène culte à la table de Louis de Funès. L'émission est réalisée en direct par Laurent Thomas avec à la technique Grégory Wallon, à la préparation Nadia Chougui et Margot Page, Djoubaka pour la programmation musicale. On se retrouve avec, juste après, les Jeux Interdits, le nouveau titre de Jane Birkin, extrait de son album Oh pardon tu dormais, composé et réalisé par Étienne Dao. Bon appétit sur France Inter.
Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Steve.
déguster.
Oh, good morning, sirs.
Oh.
Excuse me, but I have reserved a table for me. I'm Mr. Young.
Allez, posez vos fesses dans le coin, là-bas.
I go. The menu, please. Thank you.
J'écoute.
Salad of tomatoes. And a entrecôte bordelaise.
Avec du Coca-Cola.
Oh, non. Oui, Beaujolais nouveau. Very, very, very good. Marvelous, wonderful. But very, very nouveau, hein.
Vous avez évidemment reconnu Louis de Funès, alias Charles Duchemin, le patron du Grand Guide Gastronomique. Alors, grimé en la circonstance en touriste américain, avec chemise hawaïenne et chapeau texan, qui teste la cuisine campagnarde de l'auberge de la Truite, avec son menu formidable, salade of potato et ce Beaujolais...
Very, very, very nouveau.
Very, very nouveau. L'aile ou la cuisse, Claude Zidi, évidemment. Alors, on va revenir tout au long de cette émission sur ce film de 1976. Aux 6 millions d'entrées, tout de même. Et puis, sinon, les habitués dont on va déguster ont forcément reconnu le fameux...
The menu, please.
The menu, please, fait historiquement partie de notre générique grâce à Michèle Biou, la réalisatrice avec laquelle on a travaillé pendant de nombreuses saisons et qu'on embrasse très affectueusement. Alors, on va le voir, Louis de Funès fut le critique gastronomique de l'aile ou la cuisse, le directeur du grand restaurant, l'épicier de la traversée de Paris, le braconneur de Ni vu ni connu, le film d'Yves Robert 1958. Et pourtant, il y aurait comme un malentendu, Laurent Delmas. Vous n'accordez pas un total crédit gastronomique à Louis de Funès, cette émission commence fort.
Non, ça repose sur des clichés qu'on a, des caractères comiques. C'est-à-dire que il y a le clown et le l'Auguste, par exemple, le blanc et l'Auguste. Au cirque, au cinéma aussi, on retrouve ce genre de choses. Et dans la littérature, Astérix et Obélix, Laurel et Hardy.
C'est vrai.
Le gros, le petit.
Bon, c'est duo. Donc,
et c'est et les duos. Et théoriquement, par rapport à ces clichés, de Funès, c'est le petit sec et nerveux bagarreur, donc c'est Astérix. Et le truc formidable qu'il a fait, c'est que c'est Astérix plus Obélix, c'est Laurel plus Hardy, parce que dès le départ, dès son premier film en 1948, il joue un cuistot, hein, dans une œil. Il fait une petite figure, mais enfin, c'est quand même un vrai rôle. Et à partir de ce moment-là, tout le temps, on retrouvera la nourriture, la bouffe, l'hédonisme dans la carrière. Et c'est à rebours du cliché qu'on a de son personnage principal. Quand il fait l'épicier de la traversée de Paris, il est en permanence ronchon. Et en même temps, quand même, il a derrière lui, mais la France du marché noir et de l'opulence alimentaire, et qu'il défend bec et ongles. Donc il y a vraiment comme ça une alliance et une synthèse de deux caractères qui théoriquement s'opposent avec de Funès qui est remarquable. Donc non, ne vous inquiétez pas, vous avez tout à fait vocation ici pendant une heure à parler de Louis de Funès.
Claire Dixo, d'accord avec Laurent?
Ah, d'accord évidemment avec Laurent. C'est, je crois, une des choses qui font que Louis de Funès est un acteur français, emblématique des valeurs françaises. Il est à la fois Astérix et Obélix. J'adore cette métaphore de Laurent. Il a ce côté à la fois de l'épicier avaricieux de la traversée de Paris dont on parlait, du braconnier et du garde-chasse, du cuisinier et du type qui ne sait pas manger. Ça lui arrive aussi dans certains films. Et il réussit à faire cette synthèse dans laquelle tout le monde peut se reconnaître.
Absolument. Et puis aussi, Louis de Funès, en patron d'un grand restaurant, Le Grand Restaurant, le film de 1966 réalisé par Jacques Bénard, mais je crois, Laurent, imaginé par Louis de Funès, c'est-à-dire que il tenait véritablement au scénario de ce film, au sujet de ce film.
Il est co-scénariste, il est coproducteur, et c'est un sujet qu'il a eu depuis très très longtemps. Oui, auparavant. Oui.
Le pitch, Septime, directeur d'un grand restaurant sur les Champs-Élysées. Alors le film a été tourné au restaurant Le Doyen, le fameux pavillon à deux pas de la place de la Concorde. Alors c'est ce personnage obséquieux avec ses clients et infect, hein, littéralement, avec ses employés. Et puis il y a aussi évidemment...
Sauf un.
Oui, on va découvrir lequel d'ailleurs. Et puis, ce fameux bruit de bouche de Louis de Funès, alias Monsieur Septime, pour interpeller son personnel. Vous nous le refaites, Dominique?
Non.
Je ne suis pas ventriloque. C'est une espèce de bisou, en fait.
Oui, c'est un bisou. Ouais.
Mais c'est très compliqué à faire, parce que vous, ça ressemble à une espèce de poutou baveux.
Oui, mais lui, parce que je ne suis pas Louis de Funès, vous l'aurez remarqué.
pas mal. Merci beaucoup, Laurent Thomas, qui s'éclate derrière la console. Dans une scène devenue célèbre du grand restaurant, Monsieur Septime, le patron de ce restaurant, a même la perversité de se déguiser en bourgeois efféminé, histoire de se faire passer pour un client lambda et de voir comment se comporte son personnel en son absence. C'est la fameuse scène du radis qui a, je crois, Laurent, une ressemblance troublante avec la scène d'un autre film antérieur.
Oui, mais oui, 10 ans auparavant, Julien Duvivier fait alors là un drame policier très très fort qui s'appelle Voici le temps des assassins, mais il y a quelques respirations drôles dans le film parce qu'il se passe dans un restaurant des Halles typique tenu par Jean Gabin, le patron. Or, effectivement, à un moment donné du film, le patron est confronté à un client qui a des goûts gastronomiques, on peut le dire, bizarres, en tous les cas restreints dans son appétit. Et c'est exactement, effectivement, la duplication de la scène qu'on aura ensuite dans le grand restaurant.
Laurent Thomas, notre réalisateur.
On peut écouter le mix.
Ouais, exactement, l'espèce de parallèle entre les deux films à 10 ans d'écart.
Exactement.
Et pour commencer, des écrevisses au chablis, pâté dans une maison, une bonne terrine du chef, des casses ortolans.
Vos radis sont-ils bien croquants?
Oui.
Un radis.
Je me permets de vous recommander le canard à la rouennaise.
Le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours.
Au velours.
Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite?
Et si j'ai encore une petite fin, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Et Louis de Funès, quand même impayable en bourgeois comme ça, en dandy maniéré.
Je dirais féminé même. Hein,
oui, carrément. Ouais.
Carrément,
oui,
quand même. Avec une moumoute sidérante.
Avec tous les clichés, quoi. On se croirait limite dans la cage aux folles.
Oui, ça joue sur ce registre-là. Il faut juste dire que 10 ans plus tard, donc ça fait 10 ans de plus, dans L'Aile ou la Cuisse, De Funès remettra un habit et retournera dans un restaurant déguisé pour tester le restaurant. Donc c'est un thème vraiment récurrent dans la filmographie et puis surtout dans la façon de traiter ce sujet-là, quoi.
Vous pensez donc que c'est pendant le tournage du grand restaurant qu'il a pris goût à ce travestissement, en fait?
C'est en tout cas une bonne question. Moi, ce que j'adore, c'est sa capacité dans ces deux rôles-là à tout faire.
Ah oui,
il est
ouais.
dans le grand restaurant, directeur de restaurant, et il vient tester ses équipes. Il se déguise en client, voire en cliente. Il fait la vieille dame aussi, ma tisane.
Mais oui, bien sûr.
Dans L'Aile ou la Cuisse, il est directeur de restaurant, inspecteur de restaurant et cuisinier. Et il finira écrivain. On a ces rôles protéiformes qui lui donnent une palette de jeux et d'interprétations dans laquelle, évidemment, il se régale.
Laurent ?
Il faut juste dire que le patron du grand restaurant, il l'a déjà testé dans sa filmographie 4 ans avant, en 1962, dans le Gentleman d'Epsom,
ah, Gabin,
où il fait exactement le même rôle de chef cuistot, absolument imbuvable pour son personnel. Et on le voit juste dans une scène qui est formidable, mise en musique par Michel Legrand, où il mime, enfin, il fait son personnage derrière une vitre. C'est une scène absolument muette, et c'est exactement la préfiguration du grand restaurant.
Incroyable. Bah, le grand restaurant est décidément truffé de scènes cocasses. Vous vous souvenez de la pièce montée qui explose.
La pyramide à la Septime.
C'est ça, la pièce montée piégée, exactement. Le soufflet aux pommes de terre expliqué à un client allemand, ou encore les fameuses mimosas avec ou sans estragon. Telle est la question.
Dis donc, c'est toi qui as fait ça?
Oui, alors.
Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà.
Je m'en fous, par raison, chef.
Je m'en fous du chef.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, mon petit Marcel?
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a rien, cher, on a des broutilles.
C'est Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon.
Là, c'est ce que je lui disais.
Oh non, il disait de l'estragon.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content de mon petit filleul?
Ah, c'est le petit filleul, ça?
Tu es Louise?
Ah, oh, un petit peu à la même tête. Ça va, Louise?
Très bien.
Et vous, ça va, petit Marcel?
Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas?
Ah oui. Il faut que j'aille là-bas. Oui.
Bon, tranchons quand même ce débat sur les œufs mimosa, persil ou estragon?
Non, dans les vrais œufs mimosa, c'est du persil haché. Mais on peut très bien décider de faire des œufs mimosa à l'estragon.
Mais on est d'accord?
Oui.
Moi, je serais pas contre, hein, avec leurs petites notes anisées et puis des oignons, hein, très important.
Mais donc c'est le seul personnage dans son restaurant qu'il respecte, c'est-à-dire c'est le chef qu'il respecte.
Enfin, qu'il respecte.
Mais dont il a peur.
Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs la préfiguration d'un rôle que Louis de Funès tiendra pendant toute sa carrière à l'écran, c'est-à-dire celui qui est fort avec les faibles et qui est très faible avec les forts.
Exactement.
C'est un trait de caractère qui revient systématiquement.
On le voit dans la scène d'ouverture de Rabbi Jacob avec son chauffeur, on le voit martyriser systématiquement les petits. C'est Yves Montand,
dans la folie des grandeurs,
dans la folie des grandeurs, qui est obligé, qui fait 20 cm de plus dans la vie réelle, hein, et qui est obligé de marcher accroupi pour ne pas être plus haut que son maître.
C'est ça.
C'est systématique. Dans Le Grand Restaurant, le comédien qui jouait le chef fait lui aussi, je crois, 30 cm de plus.
Oui.
Et il est au moins aussi large que haut. Le petit filleul, au passage, c'est Olivier de Funès, le fils de l'acteur.
C'est vrai.
Et ce comédien qui interprète le chef était en réalité très copain avec de Funès, donc ils déjeunaient ensemble pendant le tournage, et le chef du restaurant Le Doyen leur servait entre autres du homard thermidor. Le comédien raconte qu'il a pris 5 kilos pendant le tournage.
Ce qui serait une première preuve de l'appétit de Louis de Funès pour la bonne chair dans la vie. En l'occurrence, il avoue effectivement dans des interviews s'en être mis plein la panse pendant le tournage du Grand Restaurant à coup de homard thermidor, au point d'avoir pris, comme vous le disiez, 5 kilos. Laurent.
Ses deux fils racontent qu'il avait des restaurants favoris, hein, et notamment, il y en a un qui existe toujours, j'ai vérifié, qui est le Panier Fleuri, à Sceaux-sur-Huisne, 1 avenue de la Bretagne, je le dis. Alors, je ne sais pas ce que vous l'adresse maintenant, parce que je pense que le cuistot a dû décéder entre-temps, depuis la mort de Funès, mais ses fils racontent qu'il prenait juste des cuisses de grenouille et des riz de veau. Donc, franchement, si c'est pas ça de la vraie cuisine roborative comme on aime, ben, pour un petit malingre comme ça, c'est un vrai menu, quoi, voilà.
Claire.
C'est une figure assez intéressante. On se souvient de Lino Ventura dans Les Barbouzes, commandant des paupiètes de la tête de veau. C'est une scène d'orgie. On a des souvenirs de Jean Gabin, commandant lui aussi, et entre autres dans Le Tatoué, des repas pantagruéliques. De Funès aime, dans la vie comme au restaurant, bien manger dans des bons endroits, mais il n'est jamais dans la démesure, ni dans la bouffe,
absolument,
ni dans le vin.
C'est d'ailleurs ce que dit Claude Fechner. Christian Fechner, le producteur, qui a produit L'aile ou la cuisse, et qui rencontre pour la première fois en 72 Louis de Funès. Il pense lui faire plaisir en l'invitant chez La Serre, le grand restaurant parisien, et il apprendra quelques années après, en fait, que Louis de Funès, les grands restaurants, il aimait ça, mais avec modération. C'était pas quelqu'un du genre à se taper la cloche et à finir avec une indigestion.
Pareil pour les vins, alors pardon Dominique, mais il avait une cave incroyable, il commandait à gogo des pommards, des volnais, des chambertins, etc. Et en fait, ce qu'il adorait, lui, c'était le petit vin de Loire blanc dont il avait les bouteilles par un producteur à côté de chez lui.
Eh bien, on va parler de vin, justement, assez rapidement, parce que les conditions de tournage du grand restaurant, où effectivement il profitait de la cuisine du chef de Le Doyen, contraste avec celle du tournage de L'aile ou la cuisse, où là, pour le coup, régime strict, Claire Dixot.
Il est au régime sans rien. Il vient de faire deux infarctus. Et au point que le médecin des assurances...
On est en 1975.
75 pour le tournage, en effet. Et le médecin des assurances lui a dit « Non, monsieur, vous ne remettrez plus les pieds sur un plateau. Il faut l'entrejambe de Christian Fechner pour convaincre les assurances. 15 jours de tournage, pas plus. Il y a une ambulance et un médecin prêt à intervenir sur le plateau. Et le réalisateur Claude Zidi ne sera payé qu'à la fin du tournage. Autrement dit, s'il ne tue pas son interprète principal. »
C'est ça. Coluche lui disait, tiens Louis, vous êtes là, mais j'ai pas vu votre ambulance devant les studios.
Et on a ce contraste terrible où l'on reparle d'Astérix et Obélix, où De Funès est réellement au régime carotte vapeur et voit passer des plats magnifiques qui sont, là encore, très bien cuisinés, face à Coluche, qui lui n'a aucun problème de santé, ni d'appétit d'ailleurs, et s'engouffre derrière les décors, l'intégralité des plats qui sont cuisinés pour
c'est
le
ça,
tournage.
Ben justement, vous ne croyez pas si bien dire, puisque Louis de Funès en parle dans une interview qu'il accorde à Michel Drucker. C'était les rendez-vous du dimanche sur TF1 en 1976, juste au moment de la sortie de L'aile ou la cuisse. Louis de Funès raconte comment il dégustait et il mangeait, en fait, pendant le tournage de L'aile ou la cuisse.
Mais dites-moi, Louis de Funès, interpréter dans le film de Zidi le rôle du directeur d'un guide gastronomique et être au régime, c'est quand même quelque chose, car vous étiez au régime pendant le tournage.
Ah oui. Et je mange dans le tournage jusqu'à la fin de mes jours, comme ça je serai au régime maintenant.
Mais alors les plats qui passent dans ce film sont des décors ?
Non, c'était des vrais plats qui étaient faits chez un grand traiteur, des plats succulents. Le steak là avec de la truffe, comment ça s'appelait ? Un steak
Rossini, non ?
Oui, un steak Rossini, mais énorme, avec de la truffe et puis je ne sais pas d'autres choses. Alors pour répéter, Coluche a dit, moi, il faut que je mange un peu, ça ne peut pas répéter. Il en a bouffé trois, mais trois comme ça, hein, c'est costaud, il en a bouffé trois. Et moi, je goûtais, et moi c'était un petit morceau de pain, si je n'ai pas le droit de toucher dessus. Trempé un petit peu coloré dans la sauce. Ouais. Alors je faisais... Mmh.
Régime drastique, sans boisson alcoolisée, sans caféine, sans plat en sauce, pas facile pour Louis de Funès. Certains observateurs, Laurent, disent d'ailleurs que on le ressent en fait, Louis de Funès à l'écran dans L'Aile ou la Cuisse, passe parfois pour fatigué ou amaigri.
Ah, il est très... 1976. Physiquement, il est très amaigri. Il le sera jusqu'au bout, si je puis dire, puisque dans l'avare ou dans le... ou dans la soupe aux choux, on le voit, quoi. Vraiment, c'est une transformation, oui, très, très importante de son aspect physique.
On l'a dit, Louis de Funès n'avait plus droit au vin et aux boissons alcoolisées.
C'est à rien, quoi, effectivement, oui.
Absolument. En revanche, dans L'Aile ou la Cuisse, il est obligé, alors pour les besoins du tournage, ça va aboutir à une scène fameuse de ce film, il se prête à une dégustation à l'aveugle, scène devenue culte.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans, c'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse, c'est un Médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953.
Vous étiez carrément en train de...
Ah, je la sais par cœur, je crois que c'est ma séquence de Louis de Funès préférée. Elle est très touchante, cette séquence. Le texte, déjà, est pas mal du tout. Mais c'est un
hymne à l'amour. C'est une pantalonnade, quand même. Ce qui est dit sur le vin,
oui,
c'est une pantalonnade.
Ça, l'authenticité de ce qui est dit sur cette bouteille, je vous laisse, Dominique, totalement la validation. Mais c'est une scène de théâtre. C'est là qu'on se souvient que quand même, De Funès a commencé sur les planches, a longtemps joué du théâtre classique, il a joué du Hanouille par exemple. Il est dans une scène où il ne trépigne pas, il ne grimace pas.
C'est rare.
Et il raconte, il délivre cet hymne à l'amour du vin, interprété par un personnage qui est touché par la gueusie. Il n'a plus de
dans
goût.
Dans le film, absolument.
Dans le film, et joué par un comédien qui ne pourra plus boire une goutte de vin de sa vie. C'est un moment qui est, je trouve, particulièrement touchant. De Funès caractérisait son interprétation sur ce moment-là. Il disait « Je l'ai joué avec candeur ». Je trouve que c'est un très beau mot et c'est ce qui fait que cette scène est touchante juste par son travail plus de comédien classique et de comédien du cinéma muet. Tout se passe dans ses yeux. Plus que par ce qu'on a l'habitude de voir De Funès faire d'habitude.
Oui, c'est vrai. Dans ce monologue, là, pour le coup, il est tout en sobriété,
immobile en gros plan.
À contre-courant de ce personnage un peu hystérique dont on a souvent dit qu'il en faisait un peu trop.
C'est peut-être ce qui rend touchante aussi la scène. Ça tient dans le texte et dans ses yeux et la façon dont il délivre ce petit texte.
Alors, se dit, en termes de régime par rapport au vin, il ne risque rien. Moi, j'étais accessoiriste pendant longtemps sur les films. C'est le rougi et on attend quand même, pour un 53, une livrée, une un peu cuivrée, quelque chose d'autres dans le verre. Là, oui. Bon, c'est une pantalonnade, oui. On l'accepte. Là, bon, et le discours était un peu compassé aussi, on l'accepte.
Vous avez un reproche à adresser à l'accessoiriste de L'Aile ou la Cuisse.
Ça m'est passé, merci.
Il connaît, il vient de nous le prouver, son petit Louis de Funès par cœur, et même dans le verre, on va le voir. C'est Dominique Hutin.
On va déguster. Sur France Inter.
Dominique.
Oui, ma biche. Alors, le 53, pour vous dire vrai, je voulais
vous l'amener. On n'y est pas droit au bout de 34 minutes d'émission, on n'avait pas eu droit à ma biche.
Je voulais vous amener un 53, le Léoville-Lascaz. Je me suis rapproché de la propriété, mais malheureusement, il est épuisé. Et même le propriétaire ne l'a goûté que deux fois dans sa vie. Et il se trouve que du 1953, on n'en fabrique plus beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'ai amené autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai revu tous les De Funès et j'ai identifié les vins. Donc, ça vous permettra, si vous le voulez, de les regarder en 3D, en images, en son et en goût. Parce que sur notre site, j'ai listé les vins et j'ai mis des noms de vignerons contemporains.
Waouh, quel travail !
Vous pourrez retracer tout ça. Alors, vous l'avez remarqué, on en parlait tout à l'heure avec Claire, Il y a une verve chez De Funès, et malgré tout ça, ce qui a marqué les esprits, c'est pas tellement du texte, ce sont des interjections. Le paf! Comme ça. Bah moi, je vous parlais de pif pour changer un petit peu le vin, donc on va faire défiler un petit peu sa cave. Donc il y a une dizaine de vins, ça je vous l'ai dit, et je vous ai amené un vin que mon accessoiriste de plateau, Laurent Delmas, va nous ouvrir.
Il a beaucoup de retard dans l'ouverture de la bouteille. Hein. C'est
avec les bruitages ad hoc, voilà. Parfait, Laurent, je vous laisse faire les niveaux dans les bouteilles, dans les verres, pardon. Yes. Magnifique. Alors, c'est un champagne, pourquoi? Parce qu'en regardant un petit peu tous les films, il y a une occurrence, et l'occurrence qui revient la plus souvent, c'est le champagne. Rappelons-nous que le cinéma, c'est quand même une science, un art du spectacle. Et donc, le champagne contribue à cette espèce de fête. Donc, c'est un champagne qui est bio. C'est Françoise Baudel, à Croûte. Croûte, casse-croûte, pour une émission qu'à l'écran, ça pouvait le faire, je pense. Et donc, c'est un champagne bio. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il avait une appétence pour le bio, pour les considérations environnementales. Et à ce titre-là, il était un peu en avance sur son époque. Donc, je vous laisse le déguster. Faute de 53, c'est un 2004 que j'ai tiré de ma cave pour l'occasion, pour saluer Louis de Funès. Donc du champagne, mais le cinéma, ça n'est pas que des paillettes. De Funès n'a pas incarné qu'une espèce d'expression assez tyrannique du pouvoir légal ou économique. On l'a vu capitaine d'industrie, on l'a vu gendarme, on l'a vu chef du grand restaurant, etc. Et que tout à l'heure, vous l'avez souligné, dans Ni vu ni connu, en 58, au contraire, il va incarner un braconnier qui ridiculise la maréchaussée, qui va alimenter les cuisiniers du coin avec des gibiers de contrebande, et en même temps, il écluse des bibines paysannes sans pédigré. Voilà. Donc du coup, comme ça s'est tourné à Sémur-en-Auxois, en Bourgogne, je vous ai trouvé un petit coteau d'Auxois, qui est le bio, c'est d'ailleurs le seul vigneron bio du coin. Là encore, les références sont sur notre site. Moment d'anthologie. 68, le tatoué avec Gabin, ils enchaînent du Viennas et du cidre et du Calvados. Forcément, en tant que Normand, c'était un peu trop facile, le cidre et le Calvados. Donc, comme le tournage s'est fait dans le Périgord, je vous ai trouvé un cidre de Dordogne. C'est la Maison Rouge. Et enfin, forcément, comme on ne peut pas échapper à la scène du grand restaurant, où quand il est déguisé en client mystère, il va un petit peu tourmenter notre sommelier Paul Prébois avec du sec. Et puis du doux, pour finalement opter pour un
demi-doux.
Donc bon, on s'amuse de tout ça, mais le vin au cinéma, c'est aussi un paradoxe entre deux industries. L'une, le vin, qui est ancienne, 8000 ans, et puis qui est quand même une longue histoire en regard de celle du cinéma, qui fait un peu figure de jeune premier prépubère en regard de tout ça. Et puis ce vin, il est calqué sur un temps agricole, qui est un temps forcément lent, alors que le cinéma, lui, va dévaler l'écran à la vitesse du pixel. Donc, vous voyez, on est sur deux choses très paradoxales. Eh bien, ces deux univers différents, ils sont tous les deux condamnés à s'adapter au goût de l'époque. Et le goût de l'époque, c'est quoi? C'est répondre aux attentes. Eh bien, par exemple, le cinéma va rapidement devenir un lieu communautaire qui est idéal pour faire passer des messages. Et ben, le premier âge du cinéma, va avoir une coloration documentaire et sensibilisation. C'est-à-dire que on va avoir un public qui est d'autant plus captif qu'il est assis et puis il va pas partir tout de suite parce qu'il a payé sa place. Et à un moment où la société s'interroge sur son rapport à l'alcool, les autorités sanitaires vont construire des petites fictions anti-alcooliques, et ça dès 1906 en direction du grand public. De la même manière, dans les années 50, âge d'or du cinéma, on va envoyer juste avant le film, les avant-premières, comme ça, on va envoyer un message en direction des vignerons pour ne pas utiliser trop de pesticides. Voilà. Donc, vous l'avez compris, si on a là une histoire un peu primaire du cinéma, et comme le vin, qui a écrit une partie de son histoire au bout du zinc, le cinéma aussi est un art populaire. Et ce qui fait que s'il est documentaire, s'il est fictionnel, il est divertissant, parfois il est propagandiste ou simplement récréatif, le cinéma raconte le vin en colorama, autant qu'en rouge, en blanc, en rosé. Et tout ça fait danser l'image en 24 centilitres par seconde.
Vous évoquiez d'ailleurs Le Tatoué, hein, le fameux film de 1968 confrontant Jean Gabin à Louis de Funès dans cette auberge où il déguste un repas pantagruélique et notamment ses fameuses tripes à la mode de Caen. Manger des tripes sans cidre,
c'est voir Dieppe sans la mer.
Bravo.
C'est aller à Dieppe sans voir la mer.
C'est aller à Dieppe sans voir la mer.
Un terreau surprise.
Ça, c'est de la punchline. Dominique, vous avez déterré une petite pépite pour un petit quiz piège pour nos deux invités très spécialistes de Louis de Funès.
On a confié au bon soin de Lorane.
Oui.
Alors, qui va nous l'envoyer, peut-être.
Il s'agit
de... Recette du coq au vin. Prenez un coq d'un an, bien en chair, gras et dodu. Faites-le revenir dans de l'huile bouillante. Dès que l'arôme délicieuse et parfumée vous en arrive jusque vos narines, déglacé avec du jus de veau.
Avec du jus de veau, hein. Oh, les vaches.
Au moment de servir, ajoutez du lard fumé, des petits oignons dorés au beurre et des champignons cuits à part.
Il s'agissait évidemment de deviner l'identité de ce film avec Louis de Funès à l'affiche. Laurent, Claire.
Claire.
Non, voyelle.
J'ai lu le conducteur de l'émission.
Je sais pas Claire, vous savez ou pas?
Non, je ne sais pas, pour être honnête.
Laurent.
Je sais, mais je l'ai lu. Donc
alors, ce sont des jeux.
Je
vais vous aider. C'est Bonjour, c'est... sourire. Voilà, Claude Sautet, 1956. Et on y voit, alors, on y voit un jeune de Funès, on y voit un jeune Henri Salvador, un jeune Jean Carmet et une jeune Annie Cordy.
Et oui, la regrettée Annie Cordy.
C'est peut-être l'occasion de dire que tous les, enfin, une bonne partie des nanars, il n'y a pas que des nanars, mais dont on parle, sont édités en vidéo chez René Château. C'est le cas, par exemple, du film de Claude Sautet, qui est quand même une rareté. Voilà, qui est pas tout à fait un film de Claude Sautet, mais enfin, bon, c'est une histoire compliquée de production cinématographique.
Je ne le connaissais pas, c'est en déroulant cette filmographie que je suis tombé dessus par hasard.
Bonjour, bon nanar. 1956, allez, juste pour le plaisir. Un dernier extrait de L'aile ou la cuisse où Charles Duchemin débarque sur un shooting photo pour faire la promo de son célèbre guide du chemin.
Bonjour messieurs. Bon, tous les produits sont là.
Oui monsieur le directeur.
Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Bresse ou homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous!
What I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Le Lullaby of Birdland de la reine du jazz Sarah Vaughan. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'avant d'être un grand acteur, Louis de Funès fit carrière dans la musique. Il fut notamment pianiste de bar pendant la guerre. Voilà.
Et pendant une cinquantaine de films, il a joué du piano dans plein de petits rôles.
À la table de Louis de Funès, c'est le thème du jour dont on va déguster avec Claire Dixo, auteur de À table avec Louis de Funès, 60 recettes bien de chez nous aux éditions Agnès Viennot, un livre qu'on retrouve notamment d'occasion en ligne. Et puis notre ami Laurent Delmas, évoquons ensemble à présent un peu la face champêtre du personnage. Car à l'écran, on a l'habitude de voir Louis de Funès en costume cravate, dans ses rôles de bourgeois hystéro ou d'homme d'affaires animé par l'appât du gain. Et on a un peu tendance à oublier justement le versant campagnard du personnage. Comme vous l'écrivez très bien dans votre livre, Claire Dixo, il y a le Louis de Funès des villes et le Louis de Funès des champs.
On le voit partir à la campagne assez vite dans sa filmographie. Et il n'est jamais ridicule. On se souvient plus du Louis de Funès en cravate. Un de mes films préférés, c'est Ni vu ni connu, Yves Robert, 1958. Il est le braconnier. C'est adapté d'un roman d'Alphonse Allais. Et c'est en gros l'histoire de Guignol, hein, moustache en garde-chasse. C'est quand même quelque chose. Voyez ce film, revoyez ce film, c'est un grand bonheur.
Très drôle.
Et il va braconner, y compris dans les étangs de la prison, où il est incarcéré, des écrevisses pour Pierre Mondy, directeur de la prison.
Et ça finit par une crise de foie en prison.
Monstrueuse, tout le monde est malade parce que trop bonne chair, trop bonne bouteille.
Des lapros, des bouteilles.
Des pâtés en croûte. On le voit donc garde-chasse, on le voit viticulteur, je crois dans le petit baigneur.
C'est ça.
Et il est aux commandes de son taille-vigne, j'espère pas dire de bêtises, je ne sais pas comment s'appelle cet engin, et il sait conduire, visiblement. On le voit bien sûr cultiver ses choux dans la soupe aux choux, le baccalan hâtif, une variété de printemps, faut pas rigoler avec le chou.
Bien sûr, on y viendra peut-être.
C'est tout autant un volet du Louis de Funès qui existe, et on parlera de son intérêt, je pense, à la ville, si je puis dire, dans la vie réelle, pour les végétaux, les légumes, les fruits et les fleurs, dont il est très féru. On va se souvenir de la soupe aux choux quand même, deux secondes.
Ah oui, la soupe aux choux, on va y venir dans un instant, mais juste avant, vous évoquez justement le jardin secret Louis de Funès, cette passion intime qu'il cultivait, ou ça d'ailleurs, Laurent, au château de Clermont. Alors on va entendre un extrait, faut pas trop déflorer évidemment cet extrait, mais on peut dire qu'il avait fait acquisition d'une très grande propriété en Loire-Atlantique.
Oui, c'est un jardin de 50 hectares, hein. Donc c'est un assez grand jardin qui date de 1643, c'est le château de Clermont, c'est une sorte de moulinsard hein, en termes d'architecture, comme ça. C'était dans la famille Non de Maupassant, qui est la famille où Guy a été élevé. Donc c'est à 20 km de Nantes, c'est en bord de Loire, et il achète ce château en fait avec sa femme à peu près 1 million d'euros de maintenant. C'est un château qui a juste 300 fenêtres, une trentaine de pièces, qu'il fait réaménager. Et d'ailleurs, alors, juste petite anecdote, mais qui a un rapport avec nous, les plus gros aménagements, ce sont ces deux filles. Ce qu'il raconte, il créera partout des toilettes, des WC. Ce sera un obsessionnel des toilettes très très bien faites et les plus modernes dans son château. Il en aura partout. Voilà. Donc c'est comme ça. Quoi, il veille à l'ensemble de la chaîne alimentaire, si je puis dire, avec ce goût-là. Et donc c'est effectivement son jardin secret jeu de mots compris, où il va passer vraiment la fin de sa vie. Il va d'ailleurs mourir à Nantes, mais en venant de ce château, et il est inhumé dans la commune du Cellier.
Je vous propose d'écouter l'extrait d'une interview qu'il a accordée à la télévision en 1973, car Louis de Funès ne se contentait pas d'aménager des toilettes à peu près partout, il mettait aussi les mains dans la terre.
Tout à fait.
Dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Puis alors, en plus, je mange tous les légumes. Depuis des années, je mange mes légumes, rassurez-vous. Alors maintenant, on va planter des pommes de terre. J'ai déjà des pommes de terre nouvelles sous des cloches qui viennent de pointer. Elles sont comme ça. Et pour nous, c'est un événement. Vous savez, on voit une salade qui pousse. Je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Après, on la mange sur toute chose.
Alors là, vous êtes dans votre serre à Smile.
Une serre de travail, parce que j'ai pas du tout de serre d'agrément avec des palmiers, des choses comme ça, j'ai pas le temps. Et puis enfin, des plants de salade, comme il fait mauvais dehors, je les ai semés ici, sans ça dehors on n'aurait jamais pu. Ça, ce sont des chlorophytomes, ça, ce sont des géraniums lierre. Vous savez, tout le monde prend la vache. J'ai fait de la culture d'un petit jardinier ordinaire, je dis. Ah, voilà, les tomates qu'on mangera cet été, les voilà, vous voyez. Et mais ça, ce sont des tomates, ça ne sont pas d'hybrides. Moi, j'aime pas les hybrides, je me méfie des hybrides. Ce sont les vieilles tomates d'autrefois qui s'appellent de la marmande. C'est très bon, c'est toujours été très bon.
Et vous pratiquez l'arboriculture biologique?
Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. D'ailleurs, le jour, je me rappelle, j'en foutais partout avec partout les puissons. J'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons, et ça s'est calmé. Je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Et respirer. Ça allait déjà beaucoup mieux de ne rien mettre, déjà. Et après, je mets les produits qui sont de la corne en poudre, du sang en poudre, des plumes en poudre, de la poudre d'os. Et tout ça me remplace tous les engrais chimiques qui sont des engrais naturels. Et puis du fumier, bien entendu. Mais je me le fais moi-même avec de la paille et des produits d'algues marines.
Louis de Funès, intime, touchant et contemplatif, comme vous le disiez, Elvira. C'est vrai que ça nous change du personnage vébrillonnant dans ses films. Il était dans son château de Clermont, près de Nantes, en 1973, pionnier des semences anciennes et de l'agriculture biologique, flirtant même un peu avec la biodynamie. Il était assez minoritaire à l'époque. Hein.
Il y a 50 ans, il faut quand même se rendre compte de ça. Là, le discours qui tient, c'est le discours que tout le monde tient maintenant. Mais il y a 50 ans, personne ne le tenait, ou pas grand monde. Ça veut dire, l'année suivante, René Dumont sera le candidat écologique écologique, le premier, hein, à l'élection présidentielle, qui viendra avec un verre d'eau en disant c'est, aux gens, voilà, c'est la vraie richesse, c'est le verre d'eau, relayé par des gens comme Cousteau.
Vous dire un peu le contraste de l'époque. La seule presse nationale à s'y intéresser.
Dans un entretien, c'est drôle parce qu'il parle de Cousteau et il a fait un lapsus de Funès et il dit, comme le dit le président, le commandant Cousteau, vous auriez aux étudiants, alors c'est le mélange d'ailleurs de réac, enfin, c'est intéressant parce que Cousteau avait dit aux étudiants de 68, vous feriez mieux de manifester pour l'environnement plutôt que pour vos universités.
C'est voilà. Ça.
Et de Funès reprend ça en disant, mais il avait raison, etc. Voilà.
Claire ?
J'allais raconter un petit peu la même chose. De Funès a été très marqué par les événements de 68. Il avait peur de voir des chevelus débarquer dans son domaine.
Dans son
et il planquait, c'est pas pour rien qu'il a tourné l'avare, il planquait ses sous avec un peu d'angoisse. Il avait été très marqué par la déclaration de Cousteau. Il est devenu réellement, De Funès est devenu réellement précurseur de son combat, au point où il faut voir la tête du journaliste quand même qui l'interroge, qui est quand même très interloqué par le sang séché et la poudre d'os, absolument. Et par le fait qu'il ramasse ses coccinelles dans son jardin et qu'il laisse vivre les vipères.
Les serpents.
Absolument. En disant, il n'y a pas de raison de les tuer. Au contraire, il suffit de regarder là où on marche. C'est très bon pour les plantes.
Et peut-être peut-on mettre en parallèle le combat de Louis de Funès contre l'agriculture intensive avec le thème principal porté sous ses dehors de comédie populaire par L'aile ou la cuisse de Claude Zidi en 1976.
Oui, c'est ce que nous rappelle à nos auditeurs, Christophe, qui nous écrit. Rappelons l'aspect vraiment militant avant l'heure contre la malbouffe de L'aile ou la cuisse.
De même que La Zizanie, du même Claude Zidi, est un film sur la lutte environnementale.
L'industrialisation à outrance.
Parce qu'il y a quand même... évidemment, elle n'est pas très sonore, cette scène, mais il y a évidemment la transformation physique dans L'aile ou la cuisse de Louis de Funès quand il goûte à la nourriture industrielle de Tricatel, hein, c'est ça?
Tricatel.
Pustule poussant à la vitesse de la lumière sur son visage.
Réalisé en direct à une époque où il n'y a pas encore d'image de synthèse, le couple de maquilleurs avait dû faire des miracles. Je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment ils ont fait, pour faire apparaître des pustules pendant le tournage.
Oui. Performance.
Et on verra, si vous allez voir l'exposition à la Cinémathèque, vous verrez les moules qui ont servi à faire le poulet en plastique et les feuilles de salade en plastique de la maison Tricatel, le roi de la malbouffe.
C'était effectivement les premiers pas de la malbouffe. On était au milieu des années 70.
Tricatel, c'est Jacques Borel qui a lancé le premier fast-food sur les Champs-Élysées, le Wimpy.
Exactement.
Et les restaurants d'autoroute de sinistre mémoire.
Portée sociologique très intéressante de ce film, finalement, avec du recul.
Absolument.
En parlant d'agriculture biologique. Allez, on prend la clé des champs. Elvira nous emmène en Normandie.
On va déguster. Sur France Inter.
Petite parenthèse champêtre avec vous, Elvira.
Est-ce qu'il y avait des poules et des ruches dans le jardin de Louis de Funès?
Ah, je ne crois pas. Pas de poulailler.
Je crois pas non plus.
En tout cas, moi, je vous ai apporté des œufs et du miel de la ferme. Oh. Les voici. Alors, les œufs sont plus extra frais. Ils ont été pondus le 20 août, donc ils n'ont plus le droit à l'appellation extra frais. Mais ils sont si bons. Leur jaune est si dense et si gras qu'ils sont comme tout frais pondus.
Sympa des œufs de 100 ans.
Non, 20 août, c'est rien. Avec
bien
des
sûr.
Si bons œufs.
Et je sais, et les œufs se conservent, il faut toujours le répéter.
Alors, cette ferme s'appelle Gone Girls. Gone comme Gonneville-en-Auge, dans le Calvados, pas loin de la côte, à quelques kilomètres de Cabourg. Et Girls, car la ferme a été créée par deux amis IES, Gaëlle et Claire, qui faisaient tout autre chose dans la vie. L'une dans le marketing, l'autre dans l'investissement dans l'agriculture durable, donc il y avait déjà une petite pousse, et qui se sont associées après avoir travaillé quelques mois chacune dans des fermes un peu partout, en France et à l'étranger. Et elles ont monté leur propre ferme et elles s'y sont installées avec leur famille sur 14 hectares de terre passablement dégradée par 30 ans de production intensive de céréales. Elles ont redonné vie à cette terre en utilisant des pratiques agro-silvo-pastorales fondées sur la régénération des sols. Tiens, ça aurait plu à Louis de Funès, ça. Maraîchage bio, désherbage manuel, avec des rotations de culture ultra rapides, des poules qui vivent vraiment leur meilleure vie. Je les ai vues gambader, s'épanouir, en liberté bien sûr, un verger, l'élevage d'un copain. Alors, c'est leur toute première année de récolte. En ce moment, au menu, il y a des merveilles. Des tomates, des concombres hyper denses, des aubergines, des poivrons, des betteraves, du céleri, du fenouil.
Dont Elvira s'est nourrie tous les
jours. Ah oui, je me suis goinfrée. Des carottes, des courgettes, des salades merveilleuses, du chou kale, des blettes. Elles vendent aussi les fromages et le pain des copains du coin. Et Dominique, le cidre Cidricus de Simon Lemarié.
Ah oui, vous connaissez Dominique.
C'est une jolie figure moderne du cidre.
Il va falloir qu'on reparle du cidre assez rapidement à travers une émission.
S'agissant de Normandie, j'ai un devoir de réserve, donc je laisse Elvira finir sa chronique sagement.
et elles vendent Bonne Nouvelle en direct à la ferme le mercredi après-midi et le samedi matin. Leur ambition est de devenir un exemple de ferme innovante et rentable, elles n'ont pas peur de ces mots-là, et d'inspirer une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à entreprendre autrement. Innovation et rentabilité, tiens, voilà deux mots qui reviennent beaucoup dans ce livre, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, édition Buchet-Chastel, un livre signé de la géographe écrivaine, ancienne présidente d'Action contre la faim, Sylvie Brunel. Elle milite dans ce livre pour un paysan ultra connecté et hyper adaptable, qui parvient à vivre dignement de son métier dans ce qu'elle appelle la troisième révolution agricole, qui selon elle n'aura pas lieu sans la maîtrise des techniques de pointe. Elle milite aussi pour qu'on cesse d'opposer l'eau conventionnelle et les autres modèles, dans un monde qui comptera 10 milliards de personnes en 2050 avec une majorité d'urbains. Je la cite. L'agriculture dite conventionnelle, qualifiée de productiviste, se voit discréditée au profit d'autres modes de production, telles l'agriculture biologique, l'agroécologie et surtout la permaculture, qui suscite un engouement à mesure de la méconnaissance qui l'entoure. Ces modèles ont leur pleine valeur, mais ils ne nourriront pas le monde urbain de demain. On peut être d'accord, pas d'accord. On peut d'ailleurs penser qu'il manque dans ce livre un vrai point de vue critique sur l'agribusiness, mais cette lecture est pour ma part aussi déstabilisante qu'enrichissante.
Oui, absolument. L'avenir de l'agriculture, en question dans ce livre, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, de Sylvie Brunel, Buchet, Chastel. C'est vrai qu'entre l'idéal qu'incarne l'agroécologie et le pragmatisme des agriculteurs au jour le jour, il y a parfois un écart et elle pose en
elle
tout cas...
Elle voulait surtout qu'on cesse de les opposer.
Elle pose, une capillarité.
Elle pose le débat de manière réaliste.
Le bio a toujours été un laboratoire dont s'inspire le conventionnel. Il y a une capillarité, c'est obligé.
La soupe aux choux ? Ah pardon, Claire, une petite chose à ajouter.
En complément d'Elvira qui demandait s'il y avait des poulets dans le jardin, je ne sais pas s'il y en avait dans le jardin, mais je sais qu'il y en avait dans l'appartement parisien de Louis de Funès.
Non, mais vous blaguez,
quand
là.
Il jouait au théâtre, je ne plaisante pas du tout, c'est Olivier, qui est son fils, qui était adolescent à l'époque et qui s'est retrouvé avec des poules et des couveuses dans sa chambre d'étudiant et qui était obligé de surveiller le thermostat. Pendant que Louis de Funès était sur scène à jouer Oscar, il appelait pendant l'entracte pour savoir si l'accouchement s'était bien passé.
Extraordinaire. Vous évoquiez tout à l'heure, Claire, la soupe aux choux. On va peut-être terminer avec ce plat qui annonce l'hiver. Un des tout derniers films, je crois, Laurent, ou le dernier, oui. Non, 1981.
Peut-être pas le dernier, mais...
Ah non, je crois que... les gendarmes et les gendarmes.
Voilà, hélas, il a fini sur les gendarmes. Mais bon.
C'était pas la meilleure façon de terminer, oui. Remarquez, la soupe aux choux s'est pris une volée de bois vert à l'époque de sa sortie.
Oui.
Le film n'était pas considéré comme d'une immense finesse.
Succès commercial.
Oui, succès commercial.
Succès commercial, mais film effectivement assez moyen, on peut dire.
La Glaude, Louis de Funès, voit débarquer un martien, évidemment incarné par Jacques Villeret, qui l'affuble du surnom de la denrée. La denrée refuse le verre de vin du Glaude, mais il se laisse tenter par sa soupe aux choux de la vraie. Faites avec une variété de printemps. Alors, vous vous souvenez de cette...
Le bacalan actif.
C'est ça. Alors, on va vérifier si c'est bien ça.
Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie. Faites avec mes choux à moi. Une variété de printemps. Le bacalan actif. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise, ça rend meilleur.
La soupe aux choux, film préféré de Laurent Delmas, hein, qui adore autant le chou que Louis de Funès.
Non, mais curieusement, ce sont des films comme L'aile ou la cuisse, comme La zizanie, ce sont des films moches. C'est-à-dire, c'est très étrange, ça s'attaque à la malbouffe, par exemple, et ça fait un film qui est esthétiquement très, très laid, très moche. Il n'y a pas de soin apporté à la cinématographie, et ça, c'est un peu dommage.
Voilà. Relation amoureuse entre Louis de Funès et la nourriture, comme vous l'avez si bien dit, mais également relation conflictuelle. On l'a dit, L'aile ou la cuisse avec ses gros pustules écarlates. Il est atteint d'aguesie dans L'aile ou la cuisse. Il a une crise de foie dans Ni vu ni connu de Yves Robert. Il suce des pommes de pin dans quel film ?
Dans Sur un arbre perché. Il est perché et sa voiture s'est échouée sur un pin parasol. C'est un pin parasol, d'habitude, ces petites bêtes, ça fait des pignons. Celui-là a décidé de ne pas en faire. Et donc, il suce des pommes de pin sans pignons pendant que Géraldine Chaplin s'envoie ce qui reste d'eau de pluie et d'eau minérale.
Et il finit, malheureusement, en un tout petit mot, il finit dans une cuve à chewing-gum aussi. Dans quel film ?
Très rapidement, dans Rabbi Jacob, séquence historique. Le chewing-gum dans le film, c'est de la pâte à pain avec du colorant, et ça s'est pas très bien passé pendant le tournage.
Et ça s'est pas très bien passé, mais gros accident de tournage.
Elle allait à la Cinémathèque voir l'expo Louis de Funès, et il n'y a pas que Paris dans la vie, il y a aussi un catalogue de l'expo qui est formidable, qui est publié aux éditions de la Martinière.
Louis de Funès à la Cinémathèque de Paris, vous faites bien de le rappeler. Laurent, jusqu'au 31 mai, à la table de Louis de Funès aux éditions Agnès Viennot. Merci beaucoup, Claire Dixot, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
On trouve votre livre sur Internet la semaine prochaine. Le Bordeaux en question. Y a-t-il enfin un réveil du Bordelais pour mettre fin à ce qu'on pourrait appeler le Bordeaux bashing? On en parle avec nos invités et Jérôme Gagnès, notre chroniqueuse Déborah Dupont, sera également de la partie. Merci à tous, bon dimanche, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Allez-y.